Imaginez quelqu'un sous le règne d'un roi Louis allant de place en place annonçant la destruction imminente de Paris. On l'aurait arrêté en moins de deux, et alors tout aussi vite on lui aurait coupé la tête ou bien on l'aurait jeté dans une oubliette à tout jamais. C'est ce que le prophète Jonas risquait en parcourant les rues de la ville royale de Cala, au sud du triangle de Ninive. En fait, c'est sans doute ce qu'il souhaitait. Il aurait voulu qu'on le fasse taire ou qu'aucun habitant ne lui prête la moindre attention, afin que le châtiment de Dieu frappe l'agglomération de Ninive et la raye de la carte. Je continue à lire dans le troisième chapitre du livre de Jonas. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive ». Verset 4. Jonas arrive en vue de l'agglomération de Ninive et la première ville à se présenter à lui est Cala, où on a retrouvé les restes de quatre palais magnifiques. Cette ville était située dans l'angle formé par le fleuve Tigre et son affluent, le Zab. Après avoir fait les places de Cala, Jonas devra parcourir de vastes espaces cultivés avant d'arriver à la prochaine ville. Comme j'ai déjà dit, on en connaît certaines, mais pas toutes. Jonas annonce une catastrophe, un terme qui est généralement utilisé pour décrire la destruction de Sodome et Gomorre. En d'autres mots, l'Éternel a l'intention de faire subir à Ninive le même sort que les villes maudites. Or, à lire ce récit, on constate que la ruine de toutes les villes de la vallée fut complète puisque les seuls survivants furent Lot, le neveu d'Abraham, ainsi que ses deux filles. Si Dieu n'a pas envoyé un prophète à Sodome, c'est probablement parce que Lot y résidait et assumait ce rôle. De plus, il a informé Abraham de ses intentions et lui a fourni l'occasion d'intercéder pour ces villes. Dans un cas comme dans l'autre, l'Éternel donne une chance de salut aux coupables. Jonas se déplace d'un endroit à l'autre et annonce un message qui ne pourrait pas être plus simple, mais il ne donne aucune explication. Il ne s'embarrasse ni du pourquoi ni du comment. Il ne dit pas non plus qui il est, d'où il vient. Il s'en tient strictement à la menace que Dieu lui a ordonnée de faire connaître, tout en espérant que personne n'en tiendra compte. Il dit littéralement « Encore 40 jours et Ninive est renversée ». Il utilise un participe passé comme si dans sa vision prophétique, il voyait le triangle de Ninive détruit et totalement en ruine. Par sa concision, le message de Jonas est sec comme un coup de trique, froid comme du métal et brutal comme la lame de la guillotine. Cependant, cette menace est soumise à condition et ne va pas s'appliquer automatiquement au grand chagrin de Jonas. Si les Assyriens se repentent, Dieu reviendra sur sa décision de les anéantir. Je continue le texte. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Verset 5. La coutume qui consiste à endosser des habits de toile de sac face à une tragédie ne se pratiquait pas uniquement en Israël, mais était courante parmi les peuples du Moyen-Orient. La menace de Jonas se répand comme une traînée de poudre et le baril explose. L'incroyable se produit. Les habitants croient que ce curieux personnage dit la vérité, qu'il parle au nom de l'Éternel et qu'il a le pouvoir de détruire Ninive. Ils croient aussi que s'ils s'humilient, Dieu leur fera grâce. Après Jonas, c'est au tour des habitants de Ninive de se repentir. Que toute une agglomération s'humilie comme un seul homme devant le Dieu du ciel est extraordinaire Et d'ailleurs, peu de gens acceptent cette version des faits, surtout que les annales des rois d'Assyrie n'en parlent pas du tout. Mais c'est compréhensible, car les documents officiels n'inscrivent pas ce qui fâche ou embarrasse. Aucune archive égyptienne ne mentionne le départ du peuple hébreu, sa traversée de la mer Rouge et l'anéantissement de l'armée du pharaon qui le poursuivait. Sous le règne de Sennachérib, les Assyriens n'ont jamais reconnu avoir perdu leur armée qui assiégeait Jérusalem. Pourtant, le texte dit « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et y fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. » Le fait que ces événements extraordinaires n'ont pas laissé de traces ne prouve pas qu'ils n'ont pas eu lieu. Par contraste, les textes sacrés relatent aussi bien les circonstances positives que négatives des rois et des royaumes israélites. Pour ce qui est des habitants de Ninive, et comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, il faut se rappeler qu'il s'était passé plusieurs circonstances que les Assyriens considéraient troublantes et signes de mauvais augure. Il y eut une famine en 765 avant Jésus-Christ, une éclipse du soleil en 763 et des rébellions de plusieurs villes contre l'autorité royale qui durèrent jusqu'en 758. Ces événements avaient marqué les esprits et créé un climat d'insécurité qui disposa favorablement les habitants de Ninive au message de Jonas. Leur réaction fut davantage motivée par une peur superstitieuse que par une foi authentique en l'Éternel. Comme les Assyriens s'attendaient à ce qu'une catastrophe survienne d'un jour à l'autre, ils étaient psychologiquement et spirituellement conditionnés à faire n'importe quoi pour y échapper. Sur ces entrefaites arrive Jonas avec des menaces, mais aussi avec la possibilité de bénéficier de la miséricorde divine. De plus, il est fort probable que les habitants de Ninive avaient entendu parler de l'Éternel, le Dieu des Hébreux, et de ses deux grands prophètes, Élie et Élisée. Et maintenant, ce Dieu avait envoyé dans leur ville l'un de ses porte-paroles, qui, à ses dires, avait été miraculeusement sauvé de la noyade, afin qu'il informe les Assyriens qu'à moins d'un changement radical de comportement, leur capitale et son agglomération seraient réduites en cendres. L'apparition soudaine de cet inconnu, qui ose prédire la destruction de Ninive de la part de l'Éternel, a dû faire une profonde impression sur la mauvaise conscience des Assyriens. Alors on peut comprendre qu'ils se soient fait tout petit. On sait que les Assyriens ont cru les paroles du prophète parce que Jésus a dit que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il faut aussi remarquer que selon les paroles mêmes du Seigneur, ce n'est pas seulement la prédication du prophète qui a ébranlé le peuple assyrien, mais toute sa personne. Jonas parlait avec une autorité qui ne tolérait aucune réplique. Les Assyriens ont pu lire la conviction sur ses lèvres et observer son courage. Comme ils avalaient tout cru les histoires fantaisistes que leur racontaient leurs propres voyants, les menaces de Jonas prononcées avec une assurance sans pareille les a interloqués et secoués jusque dans les tréfonds de leur être. Dans leur âme et conscience, ils n'ignoraient pas que leurs actions étaient coupables, ce qui fait que le message de Jonas n'était pas une nouvelle révélation, mais une confirmation de ce qu'ils craignaient. Alors ils ont cru le prophète de l'Éternel et ont spontanément proclamé un jeûne national. Ils mirent les drapeaux en berne, tous les commerces tirèrent leurs rideaux, les salles de spectacle furent fermées, enfin, quelque chose comme ça. Ce qui est surprenant est que ces initiatives furent un élan national sans ordonnance officielle. Il faut aussi dire que ces actions dramatiques avaient pour but unique d'apaiser un dieu puissant, très en colère. Les Assyriens étaient sincères avec eux-mêmes, dans les limites de leur vision religieuse du monde, mais cette remise en question fut éphémère et superficielle, car de toute évidence, elle s'est éteinte aussi vite qu'un feu de paille. S'il est vrai que tout ce que Dieu demande à un être humain est de croire en lui, la vraie foi n'est pas un simple acquiescement comme quoi il y a un Dieu quelque part. En ce qui nous concerne, la foi authentique est une action très spécifique qui consiste à placer sa confiance en Jésus, à l'accepter comme son sauveur parce que c'est lui qui a réalisé l'œuvre du salut en mourant sur la croix pour les péchés des hommes. Je continue le texte de Jonas. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes, comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Versets 6 et 7. Le roi n'a pas initié ce mouvement national de repentance, mais l'ayant appris, il est saisi de crainte comme ses sujets. Alors, il donne l'exemple d'une profonde repentance et amplifie les ordonnances déjà publiées par les magistrats de la ville en étendant les rigueurs du jeûne aux bêtes, car l'heure est grave et c'est le salut de tous qui est en jeu, hommes et bêtes. La participation d'un roi à une humiliation nationale n'avait rien d'exceptionnel. En 793 avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie adressa au gouverneur d'une ville au nord-est de la Syrie le message suivant. « Lamentez-vous, priez, repentez-vous pendant 3 jours, vous, peuple, pays, campagne, et accomplissez les rites de purification. » D'après les archives retrouvées avant la chute de Ninive aux mains des Babyloniens, le roi en place décréta un jeûne de 100 jours et 100 nuits aux dieux afin qu'ils détournent le danger que représentaient leurs ennemis qui assiégeaient la ville. Le texte de Jonas précise « par ordre du roi et de ses ministres ». Or, les monarques assyriens possédaient une autorité absolue. Si, dans le cas présent, le roi associe ses conseillers à son décret, c'est par humilité, parce qu'il est réellement terrifié par le message de Jonas. Que les animaux soient également privés de nourriture peut surprendre, car n'ayant pas de sens moral, ils sont innocents et ne portent donc aucune responsabilité à l'égard des comportements répréhensibles de leur maître. Cependant, comme ils partagent les joies et les peines des hommes, ils sont inclus dans de telles manifestations. Cette coutume assyrienne était répandue dans tout le Moyen-Orient. Hérodote, considéré comme le père de l'histoire, écrit qu'une fois, les Perses ont coupé les crinières et les queues de leurs chevaux et de leurs mules en signe de deuil national. Quand j'étais enfant, les corbillards étaient encore tirés par des chevaux et on les revêtait de noir, signe de deuil, ce qui montre que la participation des animaux aux tragédies humaines n'a rien d'étonnant. Comme les animaux et les êtres humains vivent ensemble, il va de soi qu'ils partagent plus ou moins le même sort. Mais on retrouve aussi cette logique dans les Écritures où dans plusieurs passages, on constate que les bêtes des champs, subissent le jugement de Dieu contre les hommes. C'est ce qui est arrivé lors du déluge, par exemple. Par contre, ils bénéficieront également des bénédictions du millénium. Je lis un texte. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Fin de citation. Je continue le texte de Jonas. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence, attaché aux paumes de ses mains. Verset 8. D'après l'histoire du peuple assyrien, on sait que la foi des habitants de Ninive au Dieu de Jonas fut de courte durée. Cependant, au moment de la prédication du prophète, elle est relativement sincère puisqu'elle produit l'humiliation et le renoncement au mal. C'était en tout cas l'avis de Jésus puisqu'il a dit « Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps car ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. » L'arrogance, la violence et la cruauté étaient des spécialités des Assyriens qui ne se lassaient pas de faire la guerre, de conquérir d'autres peuples et de les oppresser sans pitié. Le prophète Nahum a menacé Ninive en disant « Malheur à toi, ô ville qui te repaît de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, qui ne met pas de terme à toutes ses rapines, fouet qui claque, fracas des roues, des chevaux au galop, déferlement de chars, charge des cavaliers, flamboiement des épées, éclairs des lances, blessés sans nombre, amas de corps à perte de vue, des cadavres, on trébuche sur eux. » Fin de citation. Et contre les Assyriens en général, Ésaïe prophétise. « Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur. J'interviendrai contre le roi de la Syrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant, car il a déclaré « C'est par ma propre force que j'ai fait tout cela et grâce à mon habileté, car je suis très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples et pillé leurs trésors et comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. Ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid, comme on s'empare des œufs abandonnés. J'ai pris toute la terre sans qu'il y ait personne pour agiter les ailes ou pour ouvrir le bec ou pour siffler. » Le roi d'Assyrie, au temps de Jonas, sait que les signes extérieurs de la repentance n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas accompagnés d'un changement moral sincère. Ce principe était aussi la substance du message de tous les prophètes que l'Éternel envoyait aux Israélites. Par exemple, Jérémie exhortait le peuple de Juda en disant « Que chacun de vous abandonne sa mauvaise conduite et ses actes mauvais, alors vous demeurerez dans le pays que l'Éternel vous a donné à vos ancêtres et à vous, depuis toujours et pour toujours. » Fin de citation. Mais les Juifs ne voulaient ni comprendre ni accepter cette vérité. Je continue le texte de Jonas. « Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. » Verset 9. On peut ressentir de la part du peuple assyrien un sentiment touchant dans ce soupir, dans cet appel simple et humble que le roi, au nom du peuple, adresse à l'Éternel qu'il reconnaît comme le Dieu suprême, mais aussi celui qui est plein de miséricorde. Le spectacle des habitants de Ninive qui portent le deuil en attendant la décision divine est une scène émouvante. Le prophète Joël avait manifesté ces mêmes émotions aux Israélites du Nord quand il leur a dit « Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite ? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu ?» Je finis le chapitre 3 de Jonas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Verset 10. L'auteur exprime par anticipation ce que Dieu va faire suite à la repentance des Assyriens. Comme j'ai déjà dit, dans les archives assyriennes, il n'existe aucune trace de ce changement moral pourtant extraordinaire. Mais ce n'est guère étonnant parce que les peuples antiques ne mentionnaient que les accomplissements dont ils étaient fiers, comme les guerres victorieuses et les constructions pharaoniques qu'ils réalisaient. Même les Romains sont surtout connus pour être des bâtisseurs et des conquérants. Par l'intermédiaire de Jonas, l'Éternel a prononcé un jugement conditionnel sur Ninive. Comme ses habitants se sont humiliés, Dieu renonce à faire venir la catastrophe dont il les avait menacés. Ce n'est pas qu'il regrette ce qu'il avait décidé ou qu'il a changé d'avis, mais parce que les hommes ont réagi à la menace en se repentant et en abandonnant leurs agissements abominables, il renonce à son projet de les exterminer. Dieu tient en effet compte des comportements des hommes en adoptant vis-à-vis d'eux la ligne de conduite qui correspond à leur attitude. Je lis un passage de l'Ancien Testament. « Une fois je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. » Fin de citation. Parce que Dieu est toujours prêt à pardonner, on peut véritablement dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.